Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
Vous aimez l'Italie de toutes les couleurs et différences?
La musica d'hier et d'aujourd'hui, l'actualité culturelle et sportive.
Toute l'équipe de Cappuccino vous donne rendez-vous tous les dimanches de 8h à 11h sur Aligre FM 93.1 et Top Italia.
Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
Michelino, come
sì,
va?
Bene.
Tutto bene,
sì. Raffaelito, tutto bene?
Ciao, bene, bene, Michel.
L'équipe bene. Est presque au complet, il nous presque. Reste que la Cantalina, qu'on aura la semaine prochaine, qu'on salue bien, bon courage à elle. On vous souhaite plein de bonnes choses. Aujourd'hui, il pleuviote, je sais pas si on peut dire que...
Quand même, il pleuviote.
C'est beau quand je me suis levé, mais là, ça
c'est
change.
Un peu compliqué.
Ça change, non, je crois qu'il va pleuvoir aujourd'hui.
Alors, on salue Enrico Massogiovanni. Pour nous servir encore ce dimanche matin. Et puis, salut aussi également tous ceux qui peuvent nous appeler, le téléphone sonne. Là, et c'est tant mieux, 01 40 24 29 29. On salue aussi les marathoniens qui sont en train
Ah oui, ça y est, ils sont partis.
Ils sont partis. Chaud, hein, ça a 42 km 175. Donc, si vous passez les voir comme ça, faut les encourager parce que vraiment, c'est costaud. Hein, c'est costaud.
Ils méritent,
voilà. Alors, aujourd'hui, vous dites, mais tiens, c'est bizarre, il n'est pas 9h30, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Eh oui, on commence un peu plus tôt ma partie parce qu'on va proposer aux auditeurs d'Aligre un beau programme. Hein, Renato, toi, tu es en plus partie prenante dans cette émission qui va venir. Donc, je dis pas plus de ce qu'on va avoir tout à l'heure. On va juste donner quelques petites annonces culturelles comme on fait d'habitude. Comme ça, à 9h30, on pourra commencer vraiment l'émission qui est vraiment très chargée. On commence par une exposition de tableaux à voir absolument. De peinture, hein, parce que si on voit que les tableaux ça suffit pas, il faut aussi la peinture dedans, de Sergio Briga, et c'est à la mairie du 7e arrondissement. L'exposition a lieu du 22 au 30 avril, hein, c'est un italien de 11h à 18h, c'est vraiment très très beau. Si vous avez l'occasion de passer par là, n'hésitez pas à aller voir cette exposition de Sergio Briga, un superbe peintre, à la mairie du 17e. Également, l'association Les Calabrais, on connaît ça, organise un concert le 20 avril au Clandestine. Ça va t'intéresser. Au 18 rue des Envierges dans le 20e.
Pas loin de chez moi.
Voilà, donc c'est, je m'en doutais, à 20h30, avec l'orchestre Jazz Testa Quintet. Donc ça va swinguer.
Tout à fait.
Avec, dirigé par Antonio Testa. Pour plus d'informations, vous téléphonez à Bruno Moyer, 06 60 84 77 34 06 60 84 77 34. Et puis également une soirée très intéressante, c'est le samedi 18 mai à 19h30. Vous dites, oh, c'est un peu, on est loin encore. Mais non, parce qu'il faut réserver, donc il faut, voilà, être libre. Il y a beaucoup de choses en mai, juin, les gens commencent avec des associations à faire beaucoup de choses. C'est le comité des fêtes de Villecresne qui propose donc cette grande soirée italienne avec un concert par Hic et Hunt, le duo d'Alexandra et Philippe qui font une animation des soirées 50 et c'est évidemment de la musique italienne. Et puis il y aura également un spectacle par la compagnie des mots joyeux et enlevés, le spectacle Tutti Fritti. Et un voyage amoureux et savoureux à travers l'Italie. Donc il y a un dîner et on danse et il y a un spectacle. N'hésitez pas donc à appeler pour cette grande soirée au 07 49 12 73 84 07 49 12 73 84. Et je crois que Drance Italie organise quelque chose aussi, notre ami.
Ah oui,
notre ami Toto Bartoccio.
C'est la soirée dansante, Michel.
Attends, avant de faire l'annonce, je salue notre ami Enrico Di Mano. Bellissimo, Rico.
Ben oui, on salue Teodoro et Enrico en même temps, Michel. Allez, comme ça, il n'y a pas de.
Pas de jaloux.
Ben, pas de jaloux. Eh bien, on parle de cette soirée du 27 avril.
Allez,
27 avril,
il y a la fête à Drancy.
Il y a Drancy Italie qui organise son dîner dansant à partir de 19h30 au Centre culturel du Parc, place Maurice Nilès à Drancy, évidemment. Donc, pour plus d'informations et réservations, n'hésitez pas à téléphoner tout de suite ou maintenant au 01 48 31 78 95 ou bien au 06 09 68 43 85.
D'accord, il n'y a pas une bonne nouvelle parce que d'habitude on donne toujours des bonnes nouvelles à tous les
gens. Je ne sais pas, je n'ai pas le.
Mais l'iPhone,
je ne sais pas.
Mince,
je
qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Hier, on va regarder ça.
Leclerc est 8e.
Aux essais. Mais voilà, donc je crois que c'était cette nuit, hein, puisque c'est décalé aussi, c'est au Japon. Donc on va regarder ça, puis on vous donnera les infos pendant l'émission. On vous souhaite encore plein de bonnes choses. Et vous savez quoi? Comme le ciel, il est gris comme ça, vraiment, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une chanson qui donne la pêche. Et qu'est-ce qui donne la pêche, à votre avis?
Le rock.
Notre ami Luciano Pavarotti.
Aïe.
Si, avec quelle chanson? O sole mio, et c'est pour Nicole Luzardi. Un beau réveil, plein de bonnes choses. Aujourd'hui va faire beau, donc il faut en profiter.
Ero tentato ma no, e va bene lo so, ma com'è bella la vita e la tua faccia alle sei di mattina.
Ma tu non piangere.
Aligre FM presenta Cappuccino.
Il presentatore del 9:30 è Michele Gotti con i suoi invitati.
Oui, bonjour à tous. Voilà, je suis content parce que il y a beaucoup de monde dans les studios d'Aligre et c'est bien parce que ça veut dire que le dimanche matin, les gens se sentent mobilisés par cette émission Cappuccino. Voilà, viennent avec grand plaisir et c'est tant mieux. Et aujourd'hui, vous dites, mais pourquoi il prend l'antenne un peu plus tôt que d'habitude? C'est bizarre. Oui, parce qu'on a une émission très costaud, hein. Il y a beaucoup d'intervenants qui sont là et c'est tant mieux. Et alors, en plus, on va parler de la Grande Guerre. C'est bizarre, on n'est pas en novembre. Le mois de mai, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Le mois de juin, voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a rien pourtant. Eh bien non, mais c'est parce que en fait, il y a Jean-Claude Thirier qui est un grand spécialiste de la guerre de 14 et qui habite Toulouse. Et donc là, il avait l'occasion de venir sur Paris pour nous parler de ces Italiens qui sont tombés ici en France, parce que finalement, on parle souvent de Bligny et Soupir, hein, de cimetières où il y a souvent des commémorations, et il y a eu quand même 4000 Italiens qui sont décédés là. Donc on s'est dit, ça serait bien qu'on leur rende un hommage, mais si c'est pas forcément voilà la date, mais c'est pas grave, l'important c'est que Jean-Claude soit là. Donc on salue tous nos invités, dont Jean-Claude Thirier, qui est écrivain et rédacteur à La Voce, à Walter Tenaille, vice-président de l'ANCR, Philippe Rossini, qui nous parlera de son papa Antonio Rossini, et puis Antonino Dionisi, Renato Zuliani, qui lui est président de l'ANCR, Associazioni Nazionali Combattenti Reducci, et Mario Vecchioni, qu'on salue aussi. Donc voilà, j'ai fait tout le tour, c'est bon, ça va, j'ai oublié personne, parce qu'après sinon... Merci à vous tous, en tous les cas, d'être là. Et donc on va commencer avec toi, Jean-Claude, pour essayer de mieux comprendre un peu pas mal de choses que les gens peut-être ne comprennent pas vraiment toujours, dire mais pourquoi les Italiens, alors en 40 ils n'étaient plus avec nous, mais en 14 ils étaient avec nous, vraiment, enfin, bon, c'est un peu compliqué pour le commun des mortels, ceux qui ne sont pas forcément des spécialistes. Et alors donc, lors de la Première Guerre mondiale, on va commencer tout de suite par une question sur les Garibaldiens qui ont joué un rôle très très important. Peux-tu nous dire un peu plus sur le rôle des Garibaldiens dans cette Première Guerre mondiale?
Oui, bonsoir, bonjour à tous, bon dimanche, et je suis en bonne compagnie là dans cette table où sont réunis beaucoup d'amis. Et oui, alors je vais parler la guerre de 14, parce que pour les Français c'est la guerre de 14. 14-18, elle ne commence qu'en 15 en Italie. Mais les Italiens sont présents dès 1914 par le biais de l'action du fils de Garibaldi, Ricciotti, et de ses petits-fils qui sont à la base de la Légion garibaldienne qui a été formée. Il y avait tant d'Italiens qui se sont engagés dans la Légion que l'armée française a résolu le problème en faisant un régiment entièrement italien, avec évidemment les gradés qui étaient français. Il y a d'ailleurs entre parenthèses, on a trouvé en allant à Bligny un officier corse qui est enterré avec ses soldats italiens. Alors la provenance, bon, d'abord il faut que je précise que l'Italie était neutre. Elle faisait partie à l'époque de la Triplice, c'est-à-dire de l'alliance avec les empires austro-hongrois et allemands, et ce qui fait que elle a déclaré sa neutralité puisque c'était qu'un accord défensif. Donc si l'Allemagne avait été attaquée ou elle serait peut-être rentrée en guerre aux côtés des armées allemandes et austro-hongroises. Dans le cas présent, elle a déclaré sa neutralité en 1914, ce qui n'a pas empêché de nombreux Italiens. Alors à peu près, grosso modo, les Garibaldiens, une moitié étaient déjà des migrants, des gens qui vivaient en France.
Oui, voilà, c'est ça. Ce que
certains nés en France, d'autres nés en Italie. Et l'autre partie était formée par des volontaires venant d'Italie. D'ailleurs, l'écrivain sur lequel j'ai écrit ma thèse, Curzio Malaparte, Kurt Erich Sukert, de son véritable nom, a franchi la frontière à Ventimiglia et est venu s'engager dans les Garibaldiens à 16 ans. Il n'avait que 16 ans. C'est le personnage peut-être le plus connu des Garibaldiens, avec évidemment les deux frères Garibaldi qui sont morts en ligne lors des fameuses attaques dans l'Argonne, hein, dans la forêt de l'Argonne où ont combattu ces soldats qui sont dont le régiment a été dissous lorsque l'Italie est entrée en guerre, mais Ça, c'est un autre sujet que nous aborderons.
Alors justement, il y a aussi notre ami Ponticelli, hein, qui en parle souvent parce qu'il faisait partie aussi de ce
Exactement.
Groupe. Il s'était engagé, il avait même pas l'âge, hein, il a fait semblant de...
Comme beaucoup, avait 16, 17, 18.
On regardait peut-être pas trop les papiers parce que ça intéressait aussi peut-être les autorités d'engager...
Oui, ou sous faux papiers, quelquefois Malaparte, par exemple, avait pris une identité en plus italienne, avec un nom italien alors que son nom était allemand, et il risquait carrément le peloton d'exécution, hein, s'il avait été fait prisonnier par l'armée allemande.
Et donc voilà, cette unité a combattu vaillamment donc sur le front français.
Dans la forêt de l'Argonne, entre Verdun et Reims.
Alors, tu nous as dit tout à l'heure qu'en fait l'Italie est rentrée en 15 en guerre. Pourquoi ? Puisque la France en 14.
Alors, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué à expliquer. Disons que il y a eu un accord qui s'appelle l'accord de Londres que le gouvernement italien a passé avec les Alliés, enfin ce que nous appelons les Alliés, c'est-à-dire les Anglo à l'époque les Anglo-Français et Russes. Hein, que la Russie était aussi partie prenante de la Triple Alliance. Et bon, l'Italie a hésité. Il y avait, au-delà des Garibaldiens, il y avait toute une partie, en particulier des intellectuels, les milieux anarchistes, des milieux nationalistes. C'est assez bizarre d'ailleurs parce que anarchistes et nationalistes se retrouvent dans une commune envie de faire participer l'Italie à cette guerre qui était là depuis 1914, hein, depuis août 1914. Alors les tractations ont été faites, des promesses ont été faites par la Triplice pour que le respect que l'Italie se range aux côtés des empires centraux, hein, donc des Allemands et des Autrichiens. Et d'un autre côté, les Anglo-Français ont fait le forcing pour attirer l'Italie dans leur camp, sachant que au niveau de la, on va pas dire l'opinion publique, à l'époque le terme serait anachronique, mais les élites, on va dire, italiennes, étaient majoritairement quand même favorables à la guerre. Ceux qui étaient contre la guerre, c'était plutôt le parti catholique, enfin l'Église, qui était contre la guerre, mais une bonne partie de la population et des élites étaient favorables à l'entrée en guerre, et favorables à l'entrée en guerre aux côtés de l'alliance aux côtés des alliés.
C'est pour ça que ça a pris
Les accords de Londres ont été d'ailleurs à la base, on en parlera peut-être tout à l'heure quand ça sera le moment de ce qu'on appelle la vittoria mutilata, la victoire mutilée, puisque les promesses c'était la Dalmatie, c'était au-delà de Trieste et de Trente. Hein.
Voilà, le départ de la Deuxième Guerre mondiale après et l'engagement de l'Italie qui peut-être...
Peut-être, mais disons dans un premier temps, ce sentiment de que les promesses n'avaient pas été tenues des alliés.
Alors, je te propose d'écouter l'hymne des Garibaldi, puisqu'on parlait d'eux.
Andiamo, corriamo, su Roma di schiere, sapere.
Nous sommes avec Jean-Claude Thirier et toute l'équipe qui est aujourd'hui avec nous pour nous parler de cette grande guerre. Là, on a bien compris que les Garibaldiens donc, sont venus en France aider ce groupe. Et puis, les Italiens sont rentrés en guerre. Et
au côté des Alliés, donc.
Au côté des
Anglais, des Anglo-Français, puisque les principaux... Sur le front oriental, il y avait les Russes, mais qui combattaient. Mais sur le front occidental, c'était les Anglais et les Français.
Alors, explique-nous un petit peu, parce que il y a eu des grandes batailles aussi, évidemment, en Italie. La défaite de Caporetto, qui se trouve Caporetto à la frontière de la Slovénie.
Oui, c'est ça. Oui, disons que le plus gros des combats sur le front donc italien, c'était très intéressant d'avoir un troisième front en quelque sorte. Le front italien a créé un troisième front qui facilitait évidemment qui allégeait un peu les dispositifs des deux autres fronts, occidental et oriental. Et les Italiens ont combattu essentiellement une guerre de montagne. Hein, d'ailleurs, il y a une association qui s'appelle Guerra Bianca qui s'est beaucoup intéressée et qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. Et les seuls combats comparables donc au front occidental, c'est autour de Gorizia. Donc il y a 12 batailles qui se succèdent entre 15 mai, juin 15 et 1917, novembre 1917. Et lorsque la Russie sort de la guerre en 17, les Allemands peuvent envoyer des troupes de complément à l'armée austro-hongroise. Ce qui fait que les Austro-Hongrois, avec leurs alliés allemands, décident de passer à l'attaque en novembre 1917, donc dans les environs. Alors le point de départ, on dit Caporetto parce que c'est une ville qui est maintenant en Slovénie, qui fait partie de la Slovénie, et c'est sur le cours de l'Isonzo que se sont déroulés ces combats. Les Italiens étant refoulés de 100 kilomètres, ils reculent.
C'était une défaite très terrible, qu'on en parle encore.
C'était une déroute complète de l'ensemble de l'armée italienne. Enfin, il y a une armée qui craque complètement, celle qui était sur Gorizia et sur Caporetto. Et les autres sont obligés de se replier, sinon elles risquaient d'être encerclées par les Austro-Hongrois et les Allemands. Bon, l'attaque a été massive. Il y a eu des erreurs évidentes, stratégiques, de la part de Cadorna, qui était alors le commandant en chef des armées italiennes, qui d'ailleurs a été substitué suite à Caporetto par le général Diaz, qui a pris la relève de Cadorna à ce moment-là.
Et donc ça s'est terminé comment, Caporetto?
Alors ça s'est terminé sur le Piave. Le fleuve Piave est donc dans le Veneto, dans le nord du Veneto, et où l'armée italienne a réussi à stopper l'armée austro-hongroise et allemande, en particulier du fait que d'abord c'était en novembre, donc il y avait eu de grosses pluies, des crues de différentes rivières qui avaient empêcher l'artillerie austro-hongroise et allemande de suivre. Donc, et sans artillerie, la guerre de 14 n'aurait pas été aussi meurtrière, déjà. C'était un élément essentiel. Donc si l'artillerie était en retard, c'était fini. On ne pouvait pas attaquer. Donc on résiste, l'armée italienne résiste sur le Piave, et des troupes sont envoyées d'ailleurs par les Anglais et par les Français pour aider l'armée italienne.
Un petit peu le début de la reconquête quelque part, cette victoire.
Oui, disons que on stoppe surtout
l'hémorragie. Quoi.
Voilà, on stoppe l'hémorragie et c'est mourir sur place, mais que les Autrichiens ne franchissent pas le Piave, et sinon c'était Venise qui était prise, c'était
fini. Voilà, l'Italie s'écroulait, quoi.
Oui.
Alors, je te propose d'écouter justement une chanson qui est en hommage à Gorizia. Ça s'appelle Gorizia Maledetta.
Une chanson pacifiste, oui.
La mattina del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia, le terre lontane. E dolente ognun si partì. Sotto l'acqua che cadeva al rovescio grandinavano le palle nemiche su quei monti, colline, gran valli. Si moriva dicendo così: o Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu. Povigliacchi che voi ve ne state con le mogli sui letti lana, schernitori di noi carne umana, questa guerra ci insegna a punir. Voi chiamate il campo d'onore questa terra di là dei confini, qui si muore gridando assassini. Maledetti sarete un dì. Cara moglie, che tu non mi senti, raccomando ai compagni vicini di tenermi da conto i bambini, che io muoio col suo nome nel cuore. O Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per tutti.
Bon réveil à tous, vous êtes à l'écoute de Cappuccino sur le 93.1, le téléphone le 01 40 24 29 29. Donc on a parlé de Caporetto, et puis donc finalement les Italiens réussissent à stopper l'hémorragie, et c'est un petit peu la reconquête. Mais du côté français, c'est dur, hein, on sent que les Français vont peut-être craquer, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent de l'aide aux Italiens, puisque ça va un petit peu mieux du côté de Caporetto. Ils disent « Venez nous aider ». Et du coup, les Italiens viennent sur la montagne de Reims, ce qu'on appelle la montagne de Reims, qui est donc le cimetière Bligny et Soupir, où là, il y a 4000 Italiens qui sont enterrés, parce qu'ils sont, ils sont tués lors de ces batailles. Explique-nous un peu... Enfin, moi, j'ai schématisé un
alors,
peu ça.
Juste revenir sur la chanson qu'on vient d'écouter, hein, parce que c'est la chanson pacifiste par excellence. Vous avez sans doute entendu Assassini de la part de l'auteur anonyme, hein, on ne sait pas qui a écrit
fait comme la chanson de Crown pour la
voilà,
France.
Voilà, exactement. Et bon, c'est une chanson qui est éminemment émouvante. Hein. Chaque fois que je l'écoute, je ne peux pas m'empêcher de presque d'avoir les larmes. Alors concernant la suite des événements, donc le front italien est effectivement stabilisé, les Autrichiens essaient de donner quelques coups de boutoir encore sur le Piave, mais qui sont contenus. Et réponse de l'Italie à la demande de l'état-major allié, on envoie un corps d'armée, c'est-à-dire grosso modo 60 000 hommes hein, qui sont envoyés sur le front occidental. Et ça se passe pas si bien que ça au départ parce que on se méfie des Italiens. Le désastre de Caporetto, 100 kilomètres de retraite dans un climat assez difficile,
tendu avec en plus les officiers, les généraux, parce que il y avait un petit peu de
voilà.
De
alors il y avait une suspicion de les Italiens tiendront pas le coup, on va pas les mettre sur des secteurs difficiles. Et il s'avère que l'offensive allemande qui commence en mai 18, l'ultime offensive. Les Allemands savaient très bien qu'avec l'entrée en guerre des Américains en 17, ils étaient numériquement, ils tiendraient pas le coup très très longtemps. Donc dernière offensive sur le chemin des Dames, essentiellement sur le chemin des Dames, que les Allemands réussissent eux, contrairement aux Français en 17, à franchir. Et ils se retrouvent sur la Marne. Les Allemands, l'armée allemande se retrouve sur la Marne. Donc, on fait venir toutes les troupes disponibles pour bloquer cette offensive.
Pour pas que ça arrive sur Paris, hein, parce qu'on est
sur Paris, sur Reims d'un côté, ouais. Sur Paris de l'autre, isoler Verdun aussi, qui était pas très loin dans la zone, hein, dans cette zone de la guerre. Et les Italiens sont appelés donc sur la montagne de Reims, comme tu l'as dit, et contiennent de façon dramatique, puisque il y a 5000 heures de combat, hein, entre blessés, faits prisonniers et morts. Et cette bataille se passe du 14, les dates sont... Les Allemands attaquent l'énorme bombardement la nuit du 14 au 15 juillet et attaquent des armées allemandes avec les tanks qui étaient déjà opérationnels. À partir en 17, hein, les premiers tanks sont utilisés, et donc en 18, ils sont opérationnels, ils sont fonctionnels, et les Italiens tiennent avec les moyens du bord, parce que ils n'avaient pas l'attirail nécessaire, et en particulier, ils n'avaient pas les armes anti-chars que les Anglais, dont les Anglais et les Français disposaient, ce qui fait que ils tiennent avec ce qu'ils ont, hein, leurs mitrailleuses, et il y a donc, on situe, alors le cimetière de Soupir, bon, c'est 5000 Italiens qui reposent là. Alors Soupir, c'est le cimetière italien au pied du chemin des Dames, et Bligny, c'est celui sur la montagne de Reims. Là où sont le plus grand nombre d'Italiens.
Donc d'un côté, il y en a 500 et de l'autre côté
3400.
Donc on en est à presque 4000. Donc,
3600 tombes, mais 5000 morts. Il y en a qui sont dans les fosses communes.
Ah d'accord.
Voilà. Ça fait 5000 morts. Oui, c'est ça.
Et c'était des Italiens qui, j'imagine, avec quel âge, très jeunes.
La majorité était très jeune. Il y avait même i ragazzi del 99, ce qu'on a appelé les enfants de 99. Pour nous, classe 19, pour les Italiens, c'est classe 99.
Ils avaient 18 ans, quoi.
Et voilà, ils avaient 18 ans et certains plus jeunes. On a parlé de Malaparte tout à l'heure, puisque c'était un garibaldien au départ et à l'arrivée, en quelque sorte, puisque le deuxième CA était composé, entre autres, du 52e et du 51e régiment d'infanterie, qui étaient les garibaldiens, en fait. C'était les régiments, les Cacciatori delle Alpi, le régiment fondé par Giuseppe Garibaldi lui-même, pendant les guerres d'indépendance de l'Italie à la fin du 19e siècle. Donc Malaparte se retrouve parmi ces soldats, et D'ailleurs, il fait un petit peu comme nous. Nous, on y va régulièrement à Bligny.
Oui, c'est notre association.
On en parlera Renato certainement tout à l'heure. Hein.
Oui.
Et on y va régulièrement et on a toujours des choses à trouver, à modifier éventuellement quelques identités
parce
qui sont pas.
On rappelle que l'entretien des cimetières sont à la charge de l'Italie.
Et oui, c'est territoire italien.
C'est territoire italien.
On est, quand on est à Bligny, on est un petit morceau d'Italie où sont ces garçons donc, dont on a parlé, effectivement, pour la plupart des jeunes gens, de très jeunes gens. Hein, qui,
On sait de quelle région ils venaient, ces Italiens ?
De partout.
Ah, de partout.
D'un peu partout, parce que la particularité, c'est intéressant ta question, parce que ça permet de préciser que pour parfaire en quelque sorte l'unité italienne, l'état-major, enfin l'armée italienne, avait décidé que dans les régiments, il y ait des méridionaux, des gens du centre italien, du centre de l'Italie, et des gens du nord de l'Italie, de façon à mélanger ces populations et à créer un esprit disons patriotique, national qui n'existait peut-être pas.
Déjà, c'était déjà tellement compliqué.
Voilà. Alors donc là, parmi les soldats, parce que j'écris un livre aussi sur Malaparte, les combats auxquels il a assisté, et parmi les garçons dont je parle, qui sont certains enterrés à Bligny, d'autres à Soupir. Il y a des Napolitains, il y a des Calabrais, il y a des Lombards, il y a des gens du Veneto, Schiavone par exemple qui fait partie des personnages dont je parle, qui est originaire de Trévise, de la région de Trévise. Bon voilà, c'était très très varié comme.
Tu peux donner le titre de ton livre ?
Alors le livre que j'écris actuellement, pour le moment, il s'appelle Tout, parce que je parle à Malaparte en même temps. Puisque j'ai consacré une partie de ma vie à cet écrivain, donc j'essaie de faire le point sur ma relation avec lui et sur son évolution par rapport à cette guerre qu'il a fait de bout en bout en quelque sorte. Hein.
Est-ce qu'il y a un endroit où on peut acheter tes livres ?
Alors le livre le précédent, dont qui est lui édité. Tout n'est pas encore édité. Hein. Alors, avis aux amateurs, si certains vous écoutent et seraient intéressés par le sujet. Hein. Mais voilà, non, le livre que j'ai présenté l'autre jour, l'autre dimanche, c'était un livre qui n'a pas grand-chose à voir avec les Italiens, encore que de nombreux Italiens étaient ou d'origine italienne, faisaient partie des Zouaves dont mon grand-oncle est. Le régiment où mon grand-oncle a servi en 14-18.
Merci Jean-Claude Thierry. Alors, on parlait de Bligny-Soupir, parce que c'est un cimetière où voilà, tous les ans, toutes les associations d'anciens combattants, garibaldiens, et alpines, etc., ils vont pour honorer tous ces Italiens qui sont décédés. Et en novembre dernier, Renato, toi, il t'est arrivé quelque chose d'assez incroyable. Quoi, hein.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand...
Il se passe que Walter me contacte, il dit il y a Jean-Claude qui veut monter de Toulouse parce qu'il veut aller voir les noms qui sont écrits sur les tombes, s'ils sont justes, s'ils sont en orthographie.
Bien répertoriés. Si
voilà. Et on y va tous les trois. Il m'avait donné un carré du cimetière de Bligny à voir quoi, si tous les noms étaient bons. Et dans ce carré, j'ai aucun mérite, tu sais. Je sais que c'est tombé sur moi, bon, c'est tout. Eh bien, dans ce carré, je vois une feuille à l'intérieur d'un plastique. Je lis, je leur propose de lire avec moi. Et Walter, à la suite de ça, il a pris contact un peu partout. Je sais pas comment qu'il a fait parce que là, il m'a ébloui. Eh bien, il a trouvé que cette personne dont cette feuille était là, en dessous de chez nous, là, eh bien, a été écrite de Bergamo. Ranica, à dire la vérité. Il interpelle Ranica, la mère actuelle. La dame se met à pleurer. C'était la petite nièce
de ce soldat.
Voilà, qui sont venus justement pour voir le grand-oncle, là, etc., etc., s'ils pouvaient avoir des nouvelles. Et ils ont laissé ce papier. Le papier que je suis ébloui, parce que tu peux pas dire autrement, tu pars d'une feuille et tu te retrouves la famille à Bergamo. À Ranica, à dire la vérité.
C'est presque une enquête policière, quoi. Hein. C'est vrai que...
voilà. Et à partir de là, je crois que c'est Walter qui peut... raconter ce qui s'est passé par la suite.
Alors, il va raconter après, parce que là, on va voir si tout fonctionne bien, justement, Maurizio Vergani et Giampiero Crotti, qui sont de Ranica, qui vont nous expliquer, qui vont même nous lire cette lettre, si tout fonctionne bien. Mais là, on va écouter, entre-temps, la chanson « Il piave ».
Piave mormorava calma e placida al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Muti passarono quella notte i panni, pacere bisognava e andare avanti. E s'udiva intanto dalle amate sponde, sommesse lieve il tripudiar dell'onde. Era un presagio dolce e lusinghiero, il piave mormorò, non passa lo straniero. Ma in una notte trista si parlò di un fosco evento, e il piave udiva l'ira e lo sgomento. Ai, quanta gente ha vista venir giù, lasciare il tetto, poiché il nemico irruppe a caporetto. Proprio ovunque dai lontani monti venivano a gradir tutti i suoi ponti. S'udiva allor dalle violate sponde sommesso e triste il mormorio dell'onde. Come un singhiozzo in quell'autunno nero il piave mormorò, ritorna lo straniero. E ritornò il nemico per l'orgoglio, per la fame, voleva sfogare tutte le sue brame. Vedeva il piano aprico di lassù, voleva ancora sfamarsi e tripudiare come allora. No, disse il piave, no, dissero i fanti, ma in più il nemico faccia un passo avanti. E si vide il piave di gonfiare le sponde, e come i fanti combattevano le onde, rosso del sangue del nemico altero, il piave comandò, indietro va, straniero. Indietreggiò il nemico fino a Trieste, fino a Trento, e la vittoria sciolse le ali al vento. Fu sacro il patto antico, tra le schiere furon visti risorgere Oberdan, Sauro, Battisti. In Francia alfin l'italico valore, gli porta l'armi dell'impiccatore. Sicura l'Alpi, libere le sponde, e d'acqua il piave si placaron le onde. Sul patio suo, quinti torni interi, la pace non trovò, né oppressi né stranieri.
Nous sommes toujours donc dans cette grande émission sur la guerre. On essaie d'expliquer. Alors c'est vrai, on survole parce que en une heure c'est compliqué de pouvoir tout expliquer. Mais en même temps, on vous donne comme ça des anecdotes de cette lettre trouvée. Une tombe il y a deux ans. Enfin, et après, l'ANS a fait des recherches par rapport à qui avait écrit cette lettre. On a, je crois, en direct d'Italie les protagonistes, Maurizio Vergani et Giampiero Crotti.
Buongiorno.
Buongiorno a voi. Buongiorno. Sì, buongiorno di Parigi. Com'è a Ranica oggi?
Buona giornata, c'è il sole.
Ma sì, vedi che fortuna, bene, bene. Allora, in questo momento parliamo molto di Ranica, ma dov'è e che cos'è questo piccolo villaggio?
È un paese di 6.000 abitanti, è a 5 km da Bergamo,
sì.
Bergamo è la città a 50 km da Milano, cioè siamo nel nord dell'Italia, sulle Prealpi. All'inizio delle Prealpi, allo sbocco di una valle che è la Val Seriana, ma un paese che è normale, insomma, semina di tanti, ricco di persone simpatiche, sì. Questo lo possiamo affermare.
È scrive. Vero, è vero,
e siamo qui, insomma.
Sì. E anche
niente di che, è un paese... Siamo, non è più industrializzato, è stato un tempo che era molto industrializzato, l'industria tessile, adesso non più, diciamo è un paese più di residenza che altro.
Sì, sì, sì. Allora questo piccolo paesino, come dici lei, ha avuto anche dei giovani che sono venuti in Francia per combattere, e per perdere la vita. Come mai che c'è un legame fra voi e il cimitero de Bligny-sur-Pire? Questo è Maurizio Vergani, eh?
Sì. Sì. Un gruppo di miei amici hanno fatto visita al cimitero di Bligny e hanno lasciato sulla tomba di Andrea una piccola cantata che io avevo composto, che fu ritrovata dal signor Tenaglia.
C'era Renato Giuliani che ha
eravamo insieme con
e Walter Tenaglia. Sì.
Lavoro collettivo.
Sì, 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 sì. E poi?
Il signor Tenaglia si è messo in contatto con il sindaco di Ranica, che è mia sorella, ed è risalito a noi, insomma. E da allora si è instaurato un rapporto, prima attraverso mail o WhatsApp, e poi da lì è scaturito anche l'invito a partecipare alle cerimonie dei cimiteri militari del Sur-Pire di Bligny.
Dell'anno scorso,
sì, ottobre.
Sì, sì, sì. Ma voi venite spesso in Francia?
No, cioè veniamo per turismo. Io sono venuto per la prima volta a Bligny lo scorso anno.
E lei che ha messo questa lettera su...
No, l'ho lasciata ai miei amici perché sì? Mi hanno preceduto.
Sì, noi abbiamo pensato di lasciare nel primo viaggio che abbiamo fatto, cioè quindi 2 anni fa, no, che eravamo lì a agosto, siamo passati, e abbiamo pensato di lasciare questa cantata che aveva composto il nostro amico Maurizio come una forma di preghiera, no? La preghiera, sì. Perché fra l'altro nessuno mai aveva visitato del paese di Ranica, ma anche della famiglia, non aveva mai potuto visitare la tomba di Andrea Vergani. Probabilmente non sapeva neanche che fosse sepolto lì. Sì, sì. Io avevo trovato un foglio Excel pubblicato in internet, pubblicato dal consolato di Metz, no? E pubblicava proprio tutti i nomi dei sepolti, degli italiani sepolti nel cimitero di Bligny. E ho provato a mettere la frase Vergani e mi è uscito Vergani, no? È stato un caso. Allora, nell'occasione del viaggio di 2 anni fa, abbiamo pensato di portare una preghiera.
Sì.
E la preghiera migliore era questa poesia che aveva composto Maurizio,
sì.
No? E difatti ha fatto colpo, perché poi anche Walter è rimasto.
Sì, insomma, è una cosa incredibile che hanno trovato questa lettera. Infatti, sì, infatti. È possibile che Maurizio Vergani legge questa lettera?
Ve la leggo volentieri,
sì.
Una premessa.
Ecco,
nel senso ascoltiamo. Che è una cantata, e quindi diciamo che sta alla poesia come il canto popolare sta al canto dotto. Cioè io non sono né letterato né poeta. E l'ho composta esclusivamente in segno di gratitudine assieme ad altri 12 pezzi che fanno parte di questa cantata familiare che io ho divulgato esclusivamente in ambiente amicale e familiare, senza nessuna pretesa letteraria. La leggo. Bligny, Andrea, ti sarebbero piaciuti questi vigneti che correndo in ordinati filari si incurvano a morbidi dossi e degradano nei grembi accoglienti di queste colline che si perdono oltre lo sguardo in azzurrini orizzonti. Avresti ascoltato volentieri i suoni delle vendemmie, le voci di uomini e donne che con rapidi gesti recidono lunghi grappoli riccioluti come chiome di allegre fanciulle. Andrea, ti sarebbe piaciuto sprofondare in questo fiume lento che placido scorre tra erbose sponde a riprendere monete gettate per gioco. Volentieri ti saresti nascosto tra i folti canneti a fare la posta alle anatre al passo. Ora guardi una triste campagna scavata da profondi crateri, ferite e slabbrate, che urlano al cielo ira e dolore. Villaggi deserti, nessun carretto rotola su lucidi selciati. rari gatti sopravvissuti a famelliche cacce, vagan guardinghi tra desolate rovine. Campane impazzite scosse dal vento rintoccano ore di un tempo perduto. Le ultime ombre di questo tramonto sprofondano nella densa oscurità di una notte senza luna. Tirannicchi nell'umida branda di un rifugio fumoso e attendi l'istante che decide tra la morte e la vita.
Grazie, grazie mille.
Sur cette butte-là, il n'y avait pas de gigolette, pas de marlou ni de beau muscadin. Ah, c'était loin du moulin de la galette et de Paname, qu'est le roi des patelins. Ce qu'elle en a bu du beau sang, cette terre, sans d'ouvriers, sans de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, on ne tue que les innocents. La butte rouge, c'est son nom. Le baptême se fit un matin où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, à des vignes, il y pousse du raisin. Qui boira ce vin-là, boira le sang des copains. Sur cette butte-là, on n'y faisait pas la noce, comme à Montmartre où le champagne coule à flot. Mais les pauvres gars qui avaient laissé des gosses, ils faisaient entendre de terribles sanglots. Ce qu'elle en a bu des larmes, cette terre, larmes d'ouvriers, larmes de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres ne pleurent jamais, car ce sont des tyrans. La butte rouge, c'est son nom. Le baptême se fit un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, à des vignes, il y pousse du raisin. Qui boit de ce vin-là, boit les larmes des copains. Sur cette butte-là, on y refait des vendanges, on y entend des cris et des chansons. Filles et gars, doucement y échangent des mots d'amour qui donnent le frisson. Peuvent-ils songer dans leurs folles étreintes qu'à cet endroit où s'échangent leurs baisers? J'ai entendu la nuit monter des plaintes et j'y ai vu des gars au crâne brisé. La butte rouge, c'est son nom. Le baptême se fit un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Maintenant il y a des vignes, il y pousse du raisin. Mais moi j'y vois des croix portant le nom des copains.
È possibile che voi venite un altro anno a Blinier-sur-Pir per vedere anche Walter Tenaglia e tutta la gente che è qui intorno a questi microfoni?
Ma ci rivedremo a ottobre.
Ah, ecco, buona notizia.
Ci rivedremo e, sì. E lì presenteremo il libro che ha scritto Giampiero Crotti. Ho collaborato sulla parte relativa ai profughi. e quindi illustreremo un po' i contenuti di questa ricerca.
La performance di un po' di tradizioni popolari qui di Ranica, che si chiama il gruppo La Compagnia degli Zanni, proprio qualche anno fa, in occasione prendendo spunto dalla ricerca che avevamo fatto sulla Prima Guerra Mondiale, abbiamo costruito uno spettacolo di canti popolari e di testimonianze riferite alla Prima Guerra Mondiale dei ranichesi. È uno spettacolo che abbiamo già portato in giro un po' per il nord Italia, nel quale la parte più interessante e che colpisce più direttamente al cuore della gente che ascolta è il fatto che abbiamo inserito delle testimonianze di vecchi soldati della Prima Guerra Mondiale che io ho avuto la fortuna, perché non è che ci pensavo 40 anni fa, no, a queste cose. Non ci pensavo in questi termini, diciamo. Ho avuto l'occasione di intervistare almeno una quindicina di cavalieri Vittorio Veneto, come noi li chiamiamo, come li chiamavamo i reduci della Prima Guerra Mondiale, che mi avevano raccontato, e quindi noi inseriamo dei pezzi anche dentro lo spettacolo di queste registrazioni che io avevo fatto.
Bene, bene. Speriamo di vederci presto questo spettacolo. Speriamo. Dobbiamo lasciarci perché abbiamo ancora altre puntate da fare e il tempo corre. Okay. Grazie a Maurizio Vergani e a Gian Piero Crotti di Ranica, e speriamo di vederci a ottobre alla radio, chissà,
sì, certo.
Ciao, grazie a voi.
Grazie a voi.
Grazie
a voi.
Presto.
Grazie.
Ciao.
Ciao, 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 e le genti che passano.
Alors, on salue nos amis de Rennes qui nous ont expliqué un petit peu leur passion aussi pour cette grande guerre. On espère peut-être qu'un jour, on pourra les amener à Paris, dans l'émission Cappuccino. Maurizio Vergani et Jean-Pierre Crotti. Alors là, vous avez entendu Bella Ciao, vous dites là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que là, c'est pas la Première Guerre mondiale, celle-là, c'est la deuxième. Il y a aussi une explication, parce que nous avons avec nous Philippe Rossini. Et son papa, Antonio Rossini, était l'un des premiers à adhérer à l'ANCR en France et en Italie, en 46...
46 en Italie,
en Italie, bonjour à tous. Et 47 en France. Donc voilà, et c'était bien aussi de parler de ton papa qui est décédé il n'y a pas très longtemps, il avait 103 ans.
Au mois d'août, il avait 103 ans, exactement. Et donc, ces dernières années, il était à nouveau donc membre de l'ANCR, où il l'avait été en 47. Après, il y a eu une interruption. Et quand j'ai été, grâce à Renato, que je remercie, que j'ai accepté à l'ANA, j'ai commencé à participer aux réunions. Et c'est là que j'ai rencontré le papa de Walter, Monsieur Donato Tenaglia. Et un jour, je voyais que papa était très enchanté, enfin qu'il était nostalgique. Je lui ai dit, mais tu voudrais revenir? Il m'a dit, ah oui, oui. Et j'ai demandé au papa de Walter, qui a tout de suite accepté de le prendre. Et de là, ça a été une belle expérience et une belle aventure pour lui, parce que c'était se remettre dans des choses qui lui avaient beaucoup plu. Et il parlait pas beaucoup de la guerre, il n'en parlait pas énormément, mais par contre, ça lui plaisait de participer à ces réunions, et c'est ce côté chaleureux, ces chants, enfin c'est les meilleurs souvenirs, je pense, ça fait partie de ces meilleurs souvenirs qu'il y a eu à la fin. Ouais. Il y en a eu d'autres. Enfin,
est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il a fait pendant la guerre?
Alors, il disait qu'il a eu beaucoup de chance parce qu'il n'a pas été sur un front qui était très stratégique. Il était donc sur le fronte mediterraneo. Et donc, il était en Sardaigne. Et donc, il se préparait à un débarquement qui n'a vraiment jamais eu lieu. Et là où il était, il parlait toujours de la puissance militaire des Allemands, et c'était quelque chose qui l'impressionnait beaucoup. Il se demandait toujours si un jour il devait être confronté, il se demandait ce qu'il allait rester les troupes italiennes qui étaient encore là, quoi. Et il y a eu donc le départ des troupes allemandes sur la Corse, et là il a la puissance des Panzers. Il me disait toujours que ça le faisait vibrer. Et tellement il avait vu, il voyait que c'était une puissance militaire. Ça faisait encore 50 il disait que après, quand il a vu un Panzer, il tremblait de tout son corps. La première fois qu'il en a vu un. Et il voyait cette armée puissante par rapport à l'armée italienne qui était en déconfiture, quoi. Ouais. Et ça, il en parlait beaucoup. Ouais. Et par chance, il s'est rien passé de trop tragique, donc, quand les Allemands se sont repliés sur la Corse. C'est l'épisode qui l'évoquait le plus, en fait. Et sinon, le reste, il a fait quand même six ans d'armes de guerre. Donc, 6 mois de service militaire avant la déclaration de la guerre et 6 mois à la fin de la guerre, parce que cette guerre n'était pas considérée comme un service militaire.
C'est incroyable. Oui. Ouais. Il a dû être content quand la guerre est finie, puis on lui a dit, tiens, tu restes encore 6 mois.
C'était la règle du jeu. Enfin, ouais. il était à Rome. Il était allé voir à Rome. Il était en Italie à plusieurs endroits. Mais
il y a une base navale à Livorno.
Ouais. Et donc, et puis après, c'était autre chose pour lui, puisqu'il est revenu en France en 1947.
Ouais. Et ici, en France, comment a été sa vie?
Il était ailleurs. Il a eu une vie intéressante. Il a connu des gens illustres. Il a entre autres, là où il travaillait, rue Daguerre, il y avait Agnès Varda qui avait sa maison en bas de l'atelier. Il la voyait tous les jours. Il a connu aussi Lalouche quand il était jeune réalisateur. Il était encore très peu connu, et pas connu d'ailleurs. Il a connu des tas de gens, Django Reinhardt, entre autres, qu'il a connu personnellement, puisqu'il les Italiens vivaient dans les fortifs, donc dans le 13e, enfin limite du 13e, peut-être un petit peu plié. Et il y avait donc les Manouches qui étaient là. Et le soir, il voyait Django, qui était déjà connu, mais qui était dans ses caravanes, et qui jouait tous les soirs. Et il me disait toujours que cette musique l'enchantait, c'est-à-dire qu'il, quand il entendait Django jouer, il était obligé d'y aller, quoi. Il était obligé d'aller d'aller à cette musique. Et les gens du voyage faisaient un cordon autour de lui, mais mon père, à force de rentrer, ils acceptaient mon père. Et donc, il voyait Django jouer, il me disait que c'était quelque chose qui était incroyable. Et ça l'a poursuivi toute sa vie, d'ailleurs. Donc, le jour de son enterrement, on a mis Minor Swing, parce que c'était quelque chose qui, quand il entendait Django, il jouait encore. Et Coluche, il a connu aussi Coluche, cette salopette qui était sa particularité à Coluche. Papa avait fait le costume de Coluche, enfin son blazer qu'il porte dans L'Aile ou la Cuisse, le premier film qu'il a lancé. En fait, il avait fait des choses avant, mais c'est le film qu'il lance avec De Funès. Et Coluche venait dans l'atelier, puis il le regardait travailler. Et puis un jour, Coluche arrive avec une salopette.
Ouais. Ah, d'accord.
Et il lui dit, tiens, regarde, j'ai fait ça. Il avait mis un morceau de tissu pour calmer son embonpoint. Puis il dit, oui, c'est toi qui as fait ça, mon père. Il lui dit ça. Et puis Coluche, il dit, oui, tu peux. Il dit, il regarde. Puis mon père, Dieu sait s'il était exigeant. Il lui dit, c'est très bien ce que tu as fait. Et puis Coluche lui dit, mais tu peux pas me faire un peu mieux que ça. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Ce que tu as fait, c'est parfait. Il dit, je sais pas, moi, mets-moi un coup de machine. Et puis il avait mis un coup de machine et Coluche lui avait serré la main. Et c'est cette salopette fétiche qu'il a toujours, jusqu'à ce qu'il la retire, parce qu'après, il avait plus de salopette. Coluche, cette salopette, c'était papa qui avait participé avec Coluche.
Alors pour toi, naturellement, tu t'es dit, moi aussi, il faut que je m'inscrive à l'ANCR. Hein. Donc, on rappelle que c'est l'Association Nazionale des Combattanti Reduci.
Oui.
Donc, c'était normal.
C'était depuis quelques années, j'y étais aussi. Mais je crois que c'était normal que j'y sois. Mais juste un petit aparté, mes deux grands-pères ont fait donc cette campagne donc à Vittorio Veneto et un qui était de la classe 99 justement, un qui était cavalier de Vittorio Veneto et l'autre est mort en 37 et des suites de la guerre. Voilà.
Merci.
Quand au bout de 8 jours le repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et de cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Caraon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. On est tous condamnés, on est les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance. Pourtant, on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain, dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement, dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Caraon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. On est tous condamnés, on est les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens. Car nous n'avons rien, nous autres, les pauvres purotins. Tous les camarades sont tendus là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau.
on va terminer avec Walter Tennal parce qu'il y a un événement qui va se dérouler le 12 octobre, mais on peut déjà en parler à la Maison d'Italie.
12 octobre, il va y avoir un événement qui va retracer tout ce qu'on vient de dire là. Et Gian Piero Crotti a déjà évoqué le spectacle. Mais avant le spectacle, il y aura un colloque. À ce colloque vont participer. Alors, je vais essayer de mettre. Alors, d'abord, Maria Chiara Prodi va être la modératrice du colloque. Ensuite, vont intervenir Jean-Claude Thirier qui va parler de ses recherches sur Blini, Gian Piero Crotti et Maurizio, des recherches faites sur des soldats italiens de Ranica qui ont combattu en Italie. Et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Il y aura Serge Barcellini qui est le président général du Souvenir français qui interviendra. Il y aura la famille Ponticelli, car c'est le dernier poilu français, mort à 110 ans, mais il a aussi combattu en Italie. Ouais. Ensuite, il y aura le maire du 20e, Éric Plier, qui va intervenir. Peut-être Anita Garibaldi. Oui, en tout cas, on va l'inviter.
En tous les cas, un plateau.
Voilà, un plateau qui va être très intéressant.
L'arrière-petite-fille de Giuseppe Garibaldi.
Et ensuite, on aura l'occasion d'écouter Pierre Santini lire des textes, certains textes de Jean-Claude, et aussi les chanter quelques chansons de la Première Guerre mondiale. Ça, c'est le samedi 12 octobre. Le contenu est défini. Maintenant, on va travailler pour que les choses soient précisées. Et on va communiquer sur le prochain numéro de La Voce. On va parler de l'événement un peu plus dans le détail.
Merci. Voilà. Merci. En tous les cas, on parlera de tout ça. Et puis, régulièrement aussi avec Antonino Dionisi qui est là, parce que lui aussi, c'est un jeune. Mais c'est bien aussi que les jeunes, voilà, avec le devoir de mémoire, bon, on n'a pas le temps d'en parler, mais qu'ils reprennent un petit peu le relais.
Antonino va être sollicité, puisque il fait partie de l'ANCR aussi. Et il veut être porte-drapeau, donc on va le solliciter justement, et on va lui demander pourquoi il a cette démarche. Voilà.
Alors on remercie Jean-Claude Thirier, Walter Tennal, Philippe Rossini, Antonino Dionisi, Renato Zuliani et puis Mario Vecchioni qui nous fait le plaisir de nous faire des photos. Et puis pas seulement parce qu'il nous amène aussi une petite chose à manger à chaque fois, il pense à notre santé. Merci à toi en tous les cas. Et c'est lui qui nous a donné l'information sur l'exposition à aller voir à la mairie du 7e sur ce peintre italien Sergio Bregan.
Voilà. Je rajoute juste un mot, il y a aussi Patrice Gaspari, parce que la Voce va donc soutenir l'événement.
Bien sûr, qu'on salue.
Et tu sais très bien que dans la Voce contribue énormément.
On espère qu'un jour il reviendra au micro.
Il va revenir, il va revenir.
C'est un cri d'amour, la Contelance, hein. Un cri d'amour. Hein. Mais voilà, Patrizio Gaspari, vieni. Vite, en plus, il ne connaît même pas les nouveaux locaux, donc c'est super. Allez. Là, voilà, nous on va pouvoir aller manger les spaghettis. Et Renatino, lui, il était déjà en train de mettre le manteau. Non. On vous souhaite plein de bonnes choses, un bon week-end. Renatino, tu voulais dire quelque chose, tu étais avec tes amis. Come stai?
Beh, bene, bene.
Insomma.
Va dirlo in fretta, insomma. Ma insomma.
On te retrouve dans 15 jours.
D'accord.
Avec grand plaisir.
D'accord.
Et nous, on se retrouve
cette
fois-ci.
Prochain, Michel.
Mais c'est à quelle heure déjà? Questa transmission est numérique
en ça n'a pas changé encore.
À 8 heures. Allez, regarde, il nous dit qu'il faut qu'on arrête de dire des bêtises. Parce que c'est l'heure.
Grazie, Rego. Buongiorno a tutti. Buona domenica.
Au revoir.